France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
C'est la folie, quoi. 207. Là. La pointe Saint-Mathieu est fermée, ma femme devait aller bosser, bah, elle n'a pas été bosser. Hein. Des vitres pétées, des trucs. Moi, j'ai la toiture qui est en train de se barrer.
Ça a duré presque 10, 15, 20 minutes avant que tout s'arrache en château de cartes. C'était vraiment, vraiment difficile. La nuit, on n'a pas dormi du tout et vraiment, j'ai jamais vécu ça.
Météo et climat. Partant de réchauffement climatique, comment se font les prévisions météorologiques? Quels sont les outils mobilisés et la mécanique à l'œuvre? Et en quoi ces données servent-elles aux politiques publiques dans la stratégie d'anticipation et d'adaptation? Les sciences météorologiques et climatiques sont souvent méconnues et confondues. Or, du court terme au long terme, de la météo au climat, l'articulation de leurs services permet d'identifier les défis du changement climatique et les risques pour les populations. Avec nous pour entrer dans cette mécanique météo et climat, Audrey Garic est à nos côtés. Bonjour Audrey.
Bonjour Aurélie.
Merci d'être présente avec nous. Et on va comprendre bien sûr que vous avez expertisé aussi ce terrain par vos articles, parce que vous êtes journaliste de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde. En face de vous, Sylvain Mandon, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Bonjour vous êtes Audrey. Directeur Île-de-France, directeur régional Île-de-France à Météo France, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, docteur en sciences de gestion, chercheur associé au CNAM LIRSA et professeur affilié en transformation des organisations et changement climatique. Et avec nous en distanciel, Samuel Morin, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes chercheur à Météo France, directeur du Centre national de recherche météorologique. C'est le principal centre de recherche de Météo France, unité mixte de recherche avec le CNRS. Bienvenue à vous tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde. Préparez donc l'émission par Célestine Babinet avec l'appui de Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Anne Delaveau de Lina et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Paul Ging. Et merci à vous tous et vous toutes, auditeurs, de votre fidélité. Vous êtes 2,3 millions à nous écouter chaque jour.
Chaque matin, c'est la mission de Bernadette depuis 20 ans. Relever combien de millimètres d'eau sont tombés la veille sur le canton. Mais depuis 3 mois, au fond du jardin, le pluviomètre et la bénévole de Météo France sont une remplaçante.
Alors c'est ça que je dois faire. C'est un panneau photovoltaïque.
Cette station météo enregistre toute seule précipitation et température. Plus besoin de Bernadette, ou presque.
Enlever éventuellement les toiles d'araignée l'été, parce que cette saison, il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup plus précis que ce que je pouvais donner. Et ils ont en temps réel. Moi, j'envoie le premier de chaque mois.
Via le réseau de téléphonie mobile, les 800 stations du réseau climatique d'État envoient leurs données à Toulouse. Ces informations collectées sur tout le territoire viennent enrichir les supercalculateurs des prévisionnistes. En ce mois de décembre 2021, Bernadette va donc envoyer son dernier relevé papier du cahier d'observation.
Ce jour-là, j'ai mis brouillard jusqu'à 10h. 2 jours après, orage dans la nuit vers 2h30. Pour moi, ce n'était pas un travail, c'était un plaisir. On relevait ça tous les matins à 8h. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il mouille, j'allais à mon pluviomètre. C'est le monde moderne, il faut évoluer.
Eh oui, il faut évoluer. Reportage diffusé sur France 3, Nouvelle-Aquitaine, le 29 décembre 2021. Et ce témoignage de Bernadette, observatrice bénévole pendant des années pour Météo France, avant d'être remplacée par la technologie. Autre temps, hein, Sylvain Mandon, dans cette grande histoire de la météorologie.
Et oui, et donc ce témoignage rappelle en fait l'importance des observations qui sont à la base de toute l'activité de la météorologie, mais aussi de la climatologie. Sans observations, sans réseau d'observations, on ne pourrait rien faire. Et c'est vraiment, vraiment essentiel.
Alors ce sujet, Audrey Garic, je me tourne vers vous puisqu'il y a aussi une actualité au journal Le Monde. Depuis le 17 novembre 2025 existe une météo du climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. C'est un service qui est interactif, géolocalisé et gratuit. Donc, on va sur cet outil pour chercher la météo de sa ville ou de sa région. Et donc, on a bon, évidemment les températures, l'humidité, la précipitation, le vent, etc. Pas mal d'indicateurs comme ça. Mais en même temps, le service nous fournit aussi des données qui montrent l'évolution du climat. On a par exemple l'écart de la température du jour par rapport au normal de saison. Donc, par exemple, aujourd'hui, mardi, il fait 12 degrés à Paris, et l'écart par rapport à la référence 1991-2020, c'est plus 4,3 degrés. Donc ça nous montre comment le climat évolue. L'application, quoi, l'outil montre aussi le nombre de jours dans l'année qui sont au-dessus des moyennes et ceux qui sont en dessous des moyennes. Aussi les vigilances, les précipitations mensuelles et annuelles, pareil par rapport aux références, et on aura bientôt le recensement des vagues de chaleur. Et c'est aussi une porte d'entrée pour après accéder aux différents articles sur le climat que la rédaction a écrit. Donc ça permet en fait de se sensibiliser aux enjeux climatiques et de bien comprendre la différence entre la météo et le climat, qui ne sont pas des synonymes, puisque la météo, c'est plutôt l'analyse de l'atmosphère sur un temps court, alors que le climat sur un temps long, si on devait résumer. Donc là, ça nous a montré, on l'a encore vu lors de l'épisode de froid que la France a traversé, il y avait pas mal de recrudescence du climato-scepticisme. Cet épisode de froid n'empêche pas la tendance longue du réchauffement climatique. Et sur la météo du climat du monde, on le montre et on peut le voir. Par exemple, en cherchant sur Paris, on voit que sur l'épisode de froid, on a effectivement une vingtaine de jours qui sont en dessous des normales de saison. Mais c'est quand même une majorité de jours sur toute l'année, 210 jours qui sont au-dessus des normales et beaucoup moins, 155 qui sont en dessous. Et encore, les normales sont, Sylvain Mondon pourrait le dire mieux, mais sont recalculés régulièrement pour suivre l'évolution du climat, et donc ça peut aussi masquer un petit peu artificiellement le réchauffement climatique. Donc ça peut masquer le fait que, par exemple, en France, la France est réchauffée de 2,1 degrés depuis l'ère pré-industrielle.
Sylvain Mondon, vous êtes souvent face à cette contradiction, hein, c'est-à-dire une incompréhension entre ce climat, mais qui devient de plus en plus extrême, avec des événements comme ça où les températures peuvent être vraiment très basses ou très hautes, hein, et puis une incompréhension ou un amalgame avec cette question de réchauffement climatique. Il y a deux sciences, hein, sciences météorologiques et climatiques, des métiers et des fonctions, mais qui sont complémentaires et qui œuvrent ensemble, c'est ça ?
Tout à fait. Donc c'est deux pendants de la même chose, hein, qui est la thermodynamique des fluides appliquée à l'océan, l'atmosphère, la glace. Alors maintenant, on rajoute aussi le système Terre avec le vivant dans les océans et également sur Terre, et puis l'influence des activités humaines. Mais au départ, ce sont vraiment des disciplines basées sur les mêmes informations, les mêmes données scientifiques. Et ensuite, les périodes en fait qu'on considère et les échelles de temps qui sont considérées sont différentes entre la climatologie et le climat. Ce qui fait que les outils sont différents et la manière de travailler est différente. Néanmoins, ces deux disciplines en fait s'enrichissent mutuellement et ont besoin l'une de l'autre. En particulier, pour faire des prévisions météo, on a besoin de connaître le champ des possibles. Le champ des possibles, il est donné par la climatologie.
Samuel Morin, essentiel hein, de saisir cette différence entre météo et climat et leur relation pour mieux comprendre justement le réchauffement climatique en cours et ses conséquences.
Oui, la météo s'attache à suivre les conditions jour après jour, à la fois dans l'atmosphère et sur les surfaces. Et quand on s'intéresse au climat, qui est le champ des possibles, comme l'expliquait Sylvain à l'instant, en fait, on fait des statistiques sur des durées beaucoup plus longues, 20 ans, 30 ans au minimum, pour pouvoir capter sur la base des observations ou sur la base des résultats de simulations numériques la plage des conditions que l'on peut rencontrer à un endroit donné et à un moment donné dans l'année. Par exemple, au mois de janvier, quelle est la plage des conditions auxquelles on peut s'attendre sur la base des observations du passé pour pouvoir qualifier jour après jour les conditions météorologiques par rapport à cette référence climatologique qu'on appelle aussi les normales, avec le risque peut-être de confusion sur le terme normal. Normal, c'est au sens statistique du terme, c'est-à-dire en tant que référence, en tant que moyenne sur une durée de 30 ans, pas normal au sens de ce qui devrait être.
Donc entre ces sciences, il n'y a pas de différence de nature, mais d'usage, Sylvain Mondon.
Oui, tout à fait. La prévision, comme vient de le rappeler Samuel, c'est la prévision météo, c'est pour le quotidien, c'est pour la prévention des risques, pour l'optimisation des activités, pour se préparer au jour le jour, pour la journée qui arrive, pour les 7 ou 8 jours qui suivent, dans les meilleurs des cas. Et donc c'est vraiment la météorologie, c'est centré sur les courtes échelles de temps. Mais ces courtes échelles de temps, pour revenir à ce que disait Audrey, on a besoin de les resituer pour bien comprendre dans un champ des possibles qui évolue avec le changement climatique. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour les prévisionnistes d'être vraiment connectés à l'activité de climatologie pour connaître cette évolution et savoir être capable de caractériser telle vague de chaleur, tel épisode pluvieux. Est-ce que c'est habituel, inhabituel, vraiment, vraiment excessif? En fait, ça permet, en caractérisant le quotidien dans le champ des possibles, ça permet de savoir si on doit faire face à quelque chose qu'on a connu, qu'on n'a pas connu, et s'il faut prévoir des mesures exceptionnelles ou si on reste dans les modalités de gestion qui sont courantes.
Alors, les données proviennent d'où? Quelle est la mécanique à l'œuvre?
Alors les données c'est très large de dire les données. Il y a différents types de données. Alors on a parlé en ouverture des données d'observation avec le témoignage de l'observatrice et de son pluviomètre et du capteur de température. Donc ce sont des données d'observation qui servent à donner l'état de départ, la situation initiale. À partir de là, avant d'aller plus loin, on va s'intéresser un petit peu plus à cette situation initiale. Donc cette situation initiale, elle est caractérisée par des mesures en surface, comme le pluviomètre ou le thermomètre, mais elle est aussi caractérisée par des observations en altitude, avec des satellites qui mesurent depuis l'espace de très nombreux paramètres, qui permettent de connaître par exemple la hauteur du sommet des nuages, la température du sommet des nuages, des choses comme ça, l'épaisseur optique de l'atmosphère, le contenu en eau de l'atmosphère. On a aussi des mesures sur les océans, des mesures même en profondeur dans les océans.
Des bouées météo en mer, c'est ça?
Exactement, des bouées fixes sur des chaînes qui sont sur des points fixes et qui ne bougent pas, et des bouées dérivantes qui peuvent se déplacer avec les courants. Mais on a aussi des radiosondages, c'est des ballons-sondes qui sont lancés à des points fixes sur le globe, mais aussi qui peuvent être lancés à partir de navires, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un profil vertical avec des mesures sur toute la hauteur de l'atmosphère. Et puis on a aussi des radars météorologiques qui permettent de suivre des précipitations et même de les caractériser, de savoir si on a affaire à de l'eau qui tombe, à de la neige, à de l'eau en surfusion qui va se congeler en touchant un sol gelé, par exemple. Donc toutes ces informations sont des observations, des données au sens large d'observation. Ces données d'observation servent à alimenter ensuite les modèles de prévision qui projettent dans le temps ces données sur plusieurs jours.
Des supercalculateurs. Alors, il y a aussi des données faites par avion, je crois, non?
Alors, il y a aussi des sondages par avion. À chaque décollage et chaque atterrissage, en fait, les avions font une coupe de l'atmosphère. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et du coup, on profite de ces données de manière opportune pour les incorporer dans les modèles de prévision qui tournent sur les supercalculateurs, qui ensuite, eux, produisent des scénarios.
Et ça, par rapport à Météo France, sur l'Hexagone et les territoires outre-mer ou sur la planète entière?
Alors c'est sur la planète entière, et depuis que l'Organisation Météorologique Internationale existe, en fait l'ensemble des services météo qui effectuent des mesures les concentrent chacun à son niveau et les partagent immédiatement avec tous les autres. Ce qui permet à travers cette collaboration internationale de faire des prévisions sur plusieurs jours. Typiquement pour faire une prévision au-delà de 5 jours, il faut connaître de manière grossière les informations sur à peu près l'ensemble du globe.
Samuel Morin?
Oui, pour compléter ce que disait Sylvain, je voulais mentionner effectivement qu'en termes d'observation, notamment atmosphérique, il a mentionné l'observation par les avions, et de façon opportune, on assimile maintenant énormément de données avions depuis un an à peu près, ce qui a permis de progresser en fait dans l'initialisation des prévisions, notamment sur le territoire hexagonal. Puisque Sylvain a rappelé que la prévision s'envisage à toutes les échelles, en fait, il faut... quand on veut aller loin en échéance, simuler l'état de l'atmosphère et de ses interfaces à l'échelle de l'ensemble de la planète, puisque les masses d'air se déplacent et puisque une tempête qui touche la France un jour donné s'est formée quelques jours précédemment au-dessus de l'Atlantique Nord, voire plus loin. Donc on a vraiment besoin de cette vision planétaire de la situation météorologique pour pouvoir l'anticiper au-delà de quelques jours. Et puis de façon beaucoup plus fine, quand on cherche à estimer quels vont être les effets, les impacts des phénomènes météorologiques, notamment les plus intenses, on utilise d'autres outils de modélisation complémentaires qui viennent zoomer sur des régions, à la fois sur l'Hexagone, mais aussi sur les Outre-mer, pour pouvoir alimenter de façon beaucoup plus fine le diagnostic sur les conditions météorologiques attendues. En France, c'est le modèle AROM en particulier qui est utilisé, qui est développé à Météo France et avec ses partenaires, qui permet vraiment de faire ce zoom sur les conditions météorologiques à l'échelle du pays, avec une résolution, une maille, on appelle ça, de l'ordre de 1 km, 1 km 3, qui permet de représenter le relief de façon beaucoup plus fine et qui permet de représenter de façon beaucoup plus réaliste les conditions météorologiques auxquelles on peut s'attendre.
Donc pour des prévisions à court terme, à moyen terme, c'est plutôt l'agence européenne, le Centre européen de prévision météorologique qui se trouve à Bologne, qui réalise des relevés, des données.
Alors on collabore en fait avec le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, donc le CEP-MMT dans notre jargon, qui est basé sur trois sites en fait, à Reading au Royaume-Uni, à Bologne et à Bonn, donc à la fois en Italie et en Allemagne. C'est un centre distribué sur trois pays. Et en fait on collabore et on travaille sur le même code. En fait on travaille sur le même outil informatique, le même logiciel en quelque sorte, qui sert à faire des prévisions à la fois à l'échelle planétaire et à l'échelle régionale. Donc l'outil de prévision qui est ensuite implémenté par le Centre européen s'appelle IFS, pour Integrated Forecasting System, et il est utilisé pour faire des prévisions jusqu'à 12 jours d'échéance, de façon courante, voire même certaines extensions encore plus longues. Et on utilise deux configurations de ce logiciel, de ce modèle, une en mode planétaire qu'on appelle ARPEGE, qui est utilisée jusqu'aux échéances de 3 à 4 jours à Météo France pour affiner une première fois les prévisions et disposer aussi de ce qu'on appelle un ensemble de prévisions pour pouvoir caractériser l'incertitude de prévisions pour les prochains jours. On ne peut pas s'appuyer sur un seul outil, un seul modèle. On a vraiment besoin d'utiliser une diversité d'outils qui diffèrent légèrement pour essayer d'approximer notre degré de fiabilité de la prévision à venir. Et puis, le même logiciel, une fois de plus, avec une configuration différente, on l'appelle AROM quand on ne le fait tourner que sur des petits domaines à une résolution beaucoup plus fine et que l'on utilise sur la France hexagonale, par exemple, jusqu'à deux jours d'échéance.
Alors, Sylvain Mondon, à partir du moment où donc, tous ces outils ont recueilli les données nécessaires, tout est injecté dans des grands simulateurs, les supercalculateurs qui vont simuler le temps à venir. J'ai relevé des chiffres, hein, 35 millions de données d'observation brute par jour digérées par un supercalculateur à Toulouse, des outils technologiques capables de mouliner 21 millions de milliards d'équations par seconde, des équations physiques pour prédire le temps qu'il va faire, hein, pression atmosphérique, température, vitesse du vent, humidité, etc. etc. Et à partir de là, des prévisionnistes récupèrent en fait, les prévisions rendues par les supercalculateurs, et quelle est la main de l'homme, c'est-à-dire la nécessité de ce travail-là pour affiner quels autres paramètres prenez-vous en compte, des paramètres qui peuvent influer justement sur les prévisions?
Oui, ben je crois que vous avez bien résumé l'enjeu. En fait, l'enjeu, c'est dans ces 250 scénarios à peu près, dans ces millions d'informations, de... avec sa connaissance à la fois de la météorologie, des phénomènes possibles, du champ des possibles côté climat, de discerner ce qui va être utile ou pas, ce qui va être important ou pas, pertinent ou pas, en fonction de la situation et en fonction du bénéficiaire de l'information. En fonction de si on s'adresse au public, si on s'adresse aux autorités, par exemple, de prévention des inondations, si on s'adresse à des personnes qui ont une activité sensible, par exemple, qui remorquent une barge en mer, et qui ont besoin de prévisions très fines sur la hauteur des vagues. Donc vous voyez, en fait, toutes ces informations sont disponibles. Alors d'une part, il faut identifier celles qui sont les plus pertinentes, et ensuite, dans la dernière étape, c'est le dernier kilomètre de la prévision, c'est faire le lien avec le bénéficiaire. Les bénéficiaires sont multiples. Donc il y a un enjeu très important de servir, bah, par exemple, la sécurité civile, le transport aérien, le transport maritime, donc tout un tas, les pompiers, par exemple, pour la prévision de risque d'incendie.
Donc selon les clients, vous proposez des prévisions différentes?
Alors, la prévision finalisée est différente, mais le scénario de base de cette prévision, il est homogène, il est harmonisé, il est discuté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui analysent cette situation, chacun avec son focus sur son bénéficiaire, sur le genre de métier qui va utiliser cette information. Et l'importance et l'apport vraiment primordial du prévisionniste, c'est cette capacité à discerner ce qui va être important pour tel type de métier, pour tel type de bénéficiaire. Et c'est un travail. Alors permettez-moi de faire un hommage à ce métier-là, qui est très ingrat, très difficile et qui oblige à l'humilité. Oblige à l'humilité parce qu'on n'a pas la main sur ce qui va se passer. On interprète quelque chose qui est représenté au mieux avec des outils informatiques, mais quand on le fait avec en tête le besoin de certains bénéficiaires.
Et en pensant aux conséquences, si on se trompe.
Exactement. Alors, on pense surtout à faire le mieux possible pour que la qualité soit la meilleure possible. Et on s'aperçoit qu'au cours des 10 ans, des 10 dernières années, on a vraiment un gain en termes de performance. Il y a une forme de pression, effectivement, sur cette fonction, sur ce métier. Et ce métier, de ce fait-là, avec ce qu'on vient de se dire sur la maîtrise de cette complexité, ça s'apprend dans la durée. On ne s'improvise pas prévisionniste, il y a un vrai métier. Il y a un apprentissage en termes théoriques, en termes pratiques. Et c'est aussi le feedback, le retour des usagers, le retour de ce qui se passe dans la nature, le retour des particuliers, comme on l'a entendu tout à l'heure, les particuliers qui ont été soumis à la tempête dans le témoignage d'ouverture. C'est avec ces retours terrain, en fait, qu'on progresse.
Et puis des retours aussi d'autres, ou par exemple des présidents d'agglomérations azuréens qui, le 6 novembre 2024, ont un peu mis en doute la fiabilité de données de Météo France. C'est un petit peu récurrent, on le voit bien, tout en considérant, on le donne à comprendre depuis le début, qu'il y a de plus en plus de phénomènes anormaux d'une intensité rare, et on va donner à comprendre aussi comment doit se faire cette finesse d'analyse. Mais c'est important aussi de montrer qu'il peut y avoir cette question de la fiabilité. Écoutez ce reportage justement diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur le 6 novembre 2024.
Pour éviter la surprise d'une inondation en vigilance jaune comme ici à Cannes, ou au contraire une vigilance rouge sans aucun cours d'eau qui déborde, ils ont demandé un audit sur la dégradation de la fiabilité de l'institution.
Nous n'avons plus, de la part de Météo France, cette analyse micro. On a besoin d'avoir des informations très localisées, vallée par vallée, sur le littoral, qui permettent de corriger cette vision satellitaire, cette vision globale. Et ça permet de ne pas alerter et affoler les populations qui, à force d'avoir des vigilances oranges, des vigilances rouges, et qui ne voient rien les concernant, peuvent dire « bon, maintenant ça suffit ».
La préfecture l'affirme, elle obtient des informations plus locales. Pour elle, l'amélioration ne passe pas forcément par la proximité.
Moi, je ne suis pas persuadé que c'est parce qu'on aura des prévisionnistes à Nice qu'on aura une meilleure qualité de la prévision. Après, ce qu'il faut, c'est continuer à travailler sur un plan scientifique pour essayer d'affiner les prévisions, ce qui n'est pas simple dans un territoire qui est très marqué par du relief, par une mer qui est très proche et où les orages se chargent ou se déchargent, parfois en quelques minutes.
Dans son dernier rapport sur les vigilances, Météo France affiche un taux de pertinence supérieur à celui que prévoit le contrat qui la lie avec l'État. Les effectifs, eux, ont largement baissé. Les épisodes exceptionnels ne feront qu'augmenter.
France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Alors, qui veut réagir peut-être à ce reportage, Samuel Morin?
Oui, bah c'est ça illustre la difficulté à la fois de intrinsèquement de prévoir les conditions météorologiques et leurs conséquences. On l'a déjà un petit peu abordé avec le fait que les résultats de ces outils de modélisation, en fait, ces logiciels qui fonctionnent sur les supercalculateurs, hein, les supercalculateurs seuls ne sont rien si on ne les utilise pas pour mobiliser des outils de modélisation pertinents dans lesquels on injecte toute la connaissance que l'on peut avoir sur l'atmosphère, ces interfaces, et puis on les initialise en utilisant les observations, et c'est un art aussi et une science que de savoir utiliser les observations au mieux pour initialiser les prévisions. On sait que malgré tous ces progrès scientifiques, la prévision météorologique, ça reste une science qui est affectée, comme toutes les sciences, par un degré d'incertitude, d'une fiabilité qui varie selon les situations météorologiques, et particulièrement dans le cadre des phénomènes orageux, on sait que la prévision est entachée par des incertitudes qui peuvent être fortes dans certains cas sur la localisation et l'intensité des phénomènes les plus marquants. Et donc, c'est toute la difficulté à la fois scientifique et puis de la traduction de cette information pour les décideurs et pour les pouvoirs publics, et puis pour le grand public aussi plus généralement, que de placer l'alerte et le niveau de vigilance en particulier au bon niveau à l'échelle départementale, en apportant une information plus fine selon les applications dans des circonstances météorologiques qui sont difficiles. Donc le risque de fausse alarme, c'est un risque que l'on prend au sérieux. On essaie de s'assurer d'avoir le moins de fausses alarmes possible. Et l'outil de référence qui permet de caractériser ce risque de fausse alarme, c'est ce qu'on appelle la vigilance météorologique. Hein, c'est cette référence nationale qui donne le niveau de risque à l'échelle de l'ensemble des départements français pour le jour et pour le lendemain, avec un niveau de vigilance jaune, orange, rouge. quand il n'est pas vert, qui est le niveau de base. Aujourd'hui, sur les années précédentes, dans 9 cas sur 10, le niveau de vigilance a été activé à bon escient par rapport à des phénomènes. Réciproquement, ça veut dire qu'il y a 10% de fausses alarmes. Alors, ça peut paraître beaucoup, et à la fois, au regard de ce qu'on était capable de prévoir il y a encore 10 à 20 ans, les progrès ont été fulgurants. Donc, il faut aussi, dans ce contexte-là, se rappeler de la difficulté que représente cet exercice, et puis avoir un niveau d'exigence en termes de précision qui est compatible avec l'état de l'art scientifique de ce qu'on peut faire. Et on comprend bien sûr que c'est très difficile pour des habitants, pour des élus, de composer avec ces difficultés localement quand ces personnes sont soumises à des événements qui peuvent être très intenses.
Alors, en précisant, comme vous le disiez, hein, que des événements météorologiques sont plus difficiles à prédire que d'autres, comme les orages les plus intenses sur l'arc méditerranéen, notamment les tornades, etc. Audrey Garrigue, je crois que vous aviez regardé, oui, du côté, vous et la rédaction des Pages Planète, du côté des concurrents un petit peu, de l'utilisation aussi de ces applis. Il y a des applis qui aujourd'hui concurrencent Météo France et visiblement semblent satisfaire un public. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Alors tout ça aussi dans un contexte où, on en reparlera avec vous, hein, Sylvain Mondon, l'IA est entrée aussi ces dernières années dans les processus d'analyse et tout cela favorise peut-être de nouveaux outils.
Oui, c'est une collègue du service Planète qui avait fait un article sur les monsieur météo qui sont de plus en plus nombreux. Il y a peut-être des madames, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup masculin, qui montrait que le marché de la météo est devenu très concurrentiel. Météo France détient 70% du marché des services payants, mais il y a de plus en plus de gros comptes comme Météo Consult ou la chaîne Météo ou tous les sites de Guillaume Séché, la météo des villes et d'autres, ou alors des particuliers, les plus petits comptes qui font eux-mêmes leur services météo dans différentes communes, dans différents départements et qui sont visiblement quand même très lus parce qu'ils ont un ancrage local, ils sont très réactifs et ils font leur propre évaluation des modèles avec à la fois les données françaises de Météo France puisque les données ont été ouvertes au public en janvier 2024 et aussi des données américaines, là ça fait plus longtemps que c'est ouvert au public ou en Allemagne, etc. Et donc ils font leur évaluation, leur bulletin météorologique et parfois ils ont eu des assez gros clients, des communes, des collectivités. Aussi, on a vu qu'il y avait les pompiers des Bouches-du-Rhône ou des événements comme le Festival de Cannes. Donc, tout ça, ça concurrence Météo France et ça montre à quel point la météo aussi, je trouve, une passion nationale. Tout le monde est à l'affût des derniers bulletins et qu'on pulse un peu frénétiquement son application, le site internet et compare et voilà, se plaint ou pas de la météo et des prévisions. Parfois.
Une passion et une nécessité, Sylvain Mondon. Comment est-ce que vous observez cet engouement? Est-ce que vous dites que, avec malgré tous ces paramètres aussi que vous intégrez, c'est-à-dire ces événements torrentiels, les catastrophes qui peuvent subvenir de façon plus brutale, vous pensez qu'il y a suffisamment de données aujourd'hui sur le marché pour permettre ce genre de propositions aux citoyens qui, d'ailleurs, souvent se mettent sur ces applis, pensent que c'est Météo France?
Oui, d'ailleurs, quand les citoyens se plaignent, vous avez remarqué que c'est toujours après Météo France. Hein. Donc, ça veut dire que la référence, ça reste Météo France, et c'est rassurant pour nous. Maintenant, il y a de la place pour chacun fait les activités qu'il peut faire. Météo France, c'est le service de météorologie nationale, donc qui a des responsabilités au titre de ses missions. Donc, c'est un établissement public administratif défini par un décret. On retrouve par exemple dans le décret la responsabilité de la vigilance météorologique pour la population, pour la sécurité des personnes et des biens, pour le trafic, pour le transport aérien, pour le transport maritime. Voilà. Donc on a des responsabilités publiques, on a des responsabilités vis-à-vis des Français. On rend des comptes. C'est aussi pour ça que Samuel Morin rappelait les scores de vigilance qui sont examinés tous les ans et les scores de vigilance ne sont pas déterminés par Météo France. En fait, c'est les usagers, c'est les bénéficiaires. Alors c'est les autorités qui nous disent sur tel et tel département, vous nous aviez mis en orange mais on n'a rien observé, etc. Et donc on réexamine chaque situation une par une pour déterminer si on est dans le cas d'une fausse alarme, donc dans les 10% des cas où on avait placé un département en orange et il ne s'est rien passé. Inversement, si on regarde les bonnes détections, on s'aperçoit que quand il se passe quelque chose dans un département, quand il y a eu des dégâts, 99% des cas, on était en orange. Donc, vous voyez, et du coup, c'est un équilibre à trouver entre rater ce 1% et mettre en vigilance orange peut-être 10% des départements qui n'auraient peut-être pas dû. Mais là, on est au niveau de l'état de l'art, en fait. C'est vraiment difficile parce que si vous jouez sur une dimension, vous dégradez l'autre. Et rester à 1%, 10%, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Et on n'a pas à rougir. Alors, le dispositif de vigilance, c'est vraiment le référentiel pour la sécurité des personnes et des biens, qui est maintenant bien connu de la population. Il a été d'ailleurs répliqué ailleurs dans le monde, après cette initiative française du début des années 2000. Mais je voudrais revenir sur... en complément, je voudrais revenir, puisque vous parlez des épisodes intenses.
Oui.
Et dans le sujet, donc, on a eu un témoignage d'un élu qui parlait d'une forte précipitation soudaine. Mmh. Bah, typiquement, pour ce genre de situation où on a un orage très localisé avec des fortes précipitations soudaines, typiquement, la vigilance, dans ce cas-là, si c'est isolé et que c'est pas généralisé à l'échelle du département, ça apportera pas grand-chose. Et on a des outils complémentaires. Un outil qui s'appelle APIC, avertissement plus intense à l'échelle des communes. Et pour chaque commune, quand la précipitation tombe, on peut savoir si cette précipitation, elle est exceptionnelle ou très exceptionnelle. Si elle, on a une chance de l'avoir tous les 10 ans ou tous les 50 ans. Ce qui permet de savoir immédiatement, parce qu'on peut s'abonner, les communes peuvent s'abonner pour le recevoir sur leur téléphone, sur un texto, mais les particuliers peuvent le consulter sur Internet. C'est un accès libre et gratuit, hein. L'abonnement des communes est gratuit aussi. C'est juste qu'on peut pas envoyer des centaines de milliers de textos sans ça ralentir les autorités. Mais le particulier,
il appartient aux municipalités, enfin, aux élus de prévenir, dans ce cas-là, les concitoyens.
Ben, ensuite, les communes ont des plans communaux de sauvegarde qui peuvent être activer en fonction, notamment mettre des bâtards d'eau sur certaines routes pour éviter que l'eau monte dans des villages qui sont un peu en bordure. Donc ça fait partie des plans de communaux de sauvegarde. Mais aussi les particuliers, quand vous avez l'impression qu'il pleut beaucoup, bah consultez le site APIC et vous verrez immédiatement. Et pour le coup, c'est un exemple vraiment d'articulation climatologie-prévision. On a un événement instantané qui se joue à quelques minutes. Vous avez, grâce au radar et ça s'appelle la fusion de données. Hein. C'est un mélange de radar, de pluviomètre et de modèles qui permet de caractériser en temps réel le caractère inhabituel ou pas de la précipitation. Et ça permet d'avoir un niveau de service qui n'est pas accessible avec la vigilance. Parce que pour produire une carte de vigilance, il faut peser un certain nombre d'options, il faut connaître les critères qui sont différenciés pour chaque département. Et le temps de faire ça, l'orage est fini. Par contre, pour les orages vraiment isolés avec des fortes précipitations, on a des outils de fusion de données. Et c'est ce genre d'outils, en fait, sur lesquels on peut aller plus loin que les dispositifs. Donc ça complète, en fait, l'arsenal.
Samuel Morin, comment justement améliorer les dispositifs dans un avenir proche ou plus lointain et les prévisions? Et est-ce que justement les modèles IA pourraient peut-être un jour anticiper des catastrophes ou des événements subis?
Subi au sens soudain, vous voulez
oui,
dire.
Oui, complètement.
Alors, oui, il y a vraiment plusieurs approches. Hein. Alors, par exemple, sur le cas des APIC, donc les avertissements pluie intense par commune, récemment, là, peu après l'été, a été mis en place une évolution de ce service dans lequel, maintenant, non seulement il y a une information qui est communiquée sur le caractère exceptionnel de précipitation au moment donné, mais aussi une perspective sur les 3 heures à venir. Et ça, c'est aussi issu de travaux de recherche menés, entre autres, au CNRS, avec un certain nombre de partenaires, qui a permis de combiner aussi ce diagnostic en temps réel avec la perspective. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il pleut beaucoup, vous pouvez consulter, comme dit Sylvain Mondon, le site pour savoir, et ça va vous donner une information sur est-ce que c'est bientôt terminé ou est-ce que cette année a duré, ce qui est une autre information utile pour progresser. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que le progrès ici, il est à la fois... sur la recherche d'amélioration intrinsèque de chaque composante du système, mais aussi sur leur mise en relation, sur la synergie en fait qui peut se faire entre observation, modélisation et avertissement pour le grand public. Alors, pour répondre à votre question plus en détail sur les perspectives d'amélioration pour l'avenir, je vais commencer par rappeler que tout part de l'observation, que ce soit la prévision, ce qu'on appelle la base physique, c'est-à-dire celle dans laquelle on essaie de résoudre un certain nombre d'équations qui régissent les fluides atmosphériques et leurs interactions avec les surfaces continentales, l'océan, etc. Tout part de l'observation dans ces prévisions à base physique, mais tout part de l'observation aussi pour les prévisions qui sont maintenant testées par intelligence artificielle, puisque les outils d'inférence, les outils de prévision qui s'appuient sur des apprentissages de type apprentissage automatique, intelligence artificielle, ont besoin de se nourrir de données d'apprentissage et auront toujours besoin de s'initialiser par une estimation de l'état du système atmosphérique à un moment donné. Donc, l'avancée des scientifiques, techniques, technologiques, qu'elle soit sous l'angle de l'amélioration des modèles à base physique par un meilleur réalisme, par des changements de résolution ou par une meilleure représentation des facteurs d'incertitude, ou que ce soit par des approches d'IA qui sont novatrices à bien des égards, mais qui ne concurrencent pas encore les modèles à base physique pour les phénomènes de plus petite échelle, ont toujours besoin de se nourrir d'observation. Et donc, à l'avenir, pour améliorer les prévisions météorologiques, on aura toujours besoin de réseaux d'observation pertinents, que ce soit les réseaux sol, que ce soit les réseaux de stations en mer, que ce soit l'observation depuis le sol par lâcher de ballon ou par instrument qu'on appelle de télédétection, donc qui pointe vers l'atmosphère pour en mesurer les propriétés, ou que ce soit par l'observation satellitaire. Il y a à la fois eu ces dernières années des lancements de capteurs particulièrement innovants par l'ensemble des services météorologiques européens qui sont fédérés dans un organisme qui s'appelle EUMETSAT, qui a mis sur orbite plusieurs nouveaux satellites de dernière génération, à la fois des géostationnaires qui voient l'atmosphère de très loin, mais qui sont toujours centrés pour voir l'état de la Terre au-dessus de l'Europe et de l'Afrique.
Et notamment le 13 août 2025, hein, mise en orbite via Ariane 6 d'un nouveau satellite pour l'Agence européenne.
Voilà, et donc ces satellites-là et d'autres qui sont en cours d'élaboration vont continuer de jouer un rôle clé pour initialiser et tester et améliorer des systèmes de prévision dont on s'attend à ce qu'ils soient de plus en plus divers. C'est-à-dire qu'on a une ouverture du champ des possibles sur les méthodes de prévision météorologique. On passe d'un cadre où on avait principalement des méthodes à base physique. On va vers une exploration assez complète d'approches à base statistique par intelligence artificielle, et puis l'hybridation des deux, c'est-à-dire le mélange d'approches d'IA avec des approches à base physique, l'une dans l'autre et réciproquement, pour tirer le meilleur parti de ces deux approches.
Je crois que certains premiers modèles ont eu quelques couacs. Hein. On pense à Alpha, je crois, qui avait prédit en plein hiver, je crois, 30 degrés à Strasbourg. Il y a eu des petits ajustements à mettre en place avec ces modèles, mais on comprend bien, Samuel Morin, que les modèles IA sont performants grâce aux données issues des systèmes classiques et que ce sont les données de réanalyse auxquelles s'ajoutent les observations des satellites. Donc ce n'est pas la fin des prévisionnistes. À ce stade de l'émission, Sylvain Mondon, je me tourne vers vous. On va écouter votre choix musical avant, dans cette deuxième partie aussi, de s'intéresser plus précisément à la France, à Horizon 2100, un rapport de Météo France d'ailleurs, et les projections et ce que cela nous dit aussi du climat à venir et du travail de Météo France. Vous avez choisi une chanson de Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie.
Oui, alors c'est une chanson de 87-88, et pour ceux qui s'en souviendront, c'est la naissance du GIEC.
Oui, ah oui, d'accord, donc c'est la raison essentielle.
Essentielle.
Je me suis dit que comme il parle
mais c'est aussi intemporel
de citoyens et qui remplissent un rôle essentiel dans la vie, je me dis, allez, c'est peut-être un petit clin d'œil aux prévisionnistes.
C'est aussi un hommage à mes collègues prévisionnistes, parce que et même à toute la chaîne de prévision, hein, il y a les modélisateurs, les observateurs, les prévisionnistes, et toute l'informatique aussi qui permet que ça fonctionne. Quand tout ça fonctionne, c'est des personnes de l'ombre, mais ça change tout pour le citoyen.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit, qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. S'il passait
Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui.
Il changeait la vie, c'était Jean-Jacques Goldman, le choix musical de l'un de nos invités, Sylvain Mondon. Et vous êtes bien dans De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Émission en partenariat avec le journal Le Monde. Météo et climat, des prévisions à court terme aux analyses de l'impact du réchauffement climatique. Quelle mécanique est à l'œuvre? Nous en discutons avec nos trois invités. Audrey Garic, journaliste de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde. Sylvain Mondon, directeur régional Île-de-France à Météo France, ingénieur des ponts, des eaux et forêts. Professeur affilié en transformation des organisations et changement climatique. Samuel Morin, chercheur à Météo France, directeur du Centre national de recherche météorologique. Et bien, tous ensemble, nous allons maintenant nous préoccuper aussi de ce qui nous attend en 2100. Mais pour l'heure, petit retour en arrière, 2003.
Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards et il n'est que 9h ce matin. Principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades, et que la canicule affaiblit davantage. Une situation catastrophique qui aurait, selon les médecins urgentistes, provoqué la mort de 50 personnes en 4 jours à Paris. La Direction générale de la Santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé.
Oui, tout malade finalement c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert? Ça veut dire que finalement on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Le problème il est bien réel, c'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir.
Difficile d'établir des statistiques fiables à propos des conséquences réelles de la chaleur sur le nombre de décès, mais la situation est clairement exceptionnelle. Pas assez de lits, pas assez de personnel et un nombre d'admissions à Paris qui a presque doublé en quelques jours.
On a énormément de gens, toutes les personnes âgées qui viennent parce qu'ils sont déshydratés et qui se retrouvent effectivement avec une température corporelle élevée aux alentours de 38, entre 38 et 42 fièvres. Et on ne sait pas où les mettre, il faut les hospitaliser parce qu'évidemment il faut les réhydrater. Et actuellement on ne sait pas où les mettre parce qu'il n'y a pas de place nulle part.
Reportage diffusé sur France 3 dans le 13-14 du 11 août 2003. Samuel Morin et Sylvain Mondon, hein, cet été caniculaire de 2003 qui s'est soldé par 14 000 morts supplémentaires, devrait être la normalité à l'horizon 2085. Qui veut peut-être s'emparer de ce sujet d'emblée, Sylvain Mondon? Non.
Alors 2003, effectivement... Alors, normalité, attention, normalité en termes météorologiques, peut-être pas en termes de surmortalité.
Complètement.
Puisque non, l'objectif, c'est que d'ici là, on se soit adapté à ce climat-là.
Nous allons en parler, l'action publique et la réaction, l'adaptation.
La plus faible possible. Mais effectivement, c'est un changement de référentiel, parce qu'en fait, c'est un épisode inédit, tout simplement. Avant que la canicule 2003 se produise en France, on n'avait jamais eu d'épisode de vague de chaleur avec autant de conséquences. Nulle part dans le monde, on n'en connaissait pas. Donc c'était inédit, les conséquences sont inédites. Et qu'est-ce qu'on a observé? Peut-être que, d'ailleurs, l'ensemble du monde journalistique l'avait souligné à l'époque, hein, c'est une saturation des capacités de gestion des services sanitaires, parce que simplement, on n'était pas préparé à ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est un point de bascule, c'est un moment aussi où les vagues de chaleur sont entrées dans le système de vigilance. Le système de vigilance a démarré en 2001, à partir de 2004, on a eu des vagues de chaleur, et puis on a appelé ça les canicules. Et donc la vigilance canicule est rentrée à partir de 2004 dans le dispositif, parce qu'on a pris conscience, collectivement, la société a pris conscience, que les vagues de chaleur sont un danger, qu'il y a des effets d'îlots de chaleur urbains qui aggravent ce danger, et qu'il est important de s'y préparer, et donc de faire des projections climatiques pour se projeter dans le futur.
Samuel Morin?
L'exposé de Sylvain est déjà assez complet. Alors peut-être pour répondre à votre question sur ce à quoi s'attendre en fin du 21e siècle, donc vous citiez 2085, ce qu'il faut savoir c'est que en matière de projection climatique, donc là on change d'échelle de temps, hein, par rapport à ce dont on a parlé précédemment, en fait l'espace des possibles pour le 21e siècle dépend en premier lieu des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'ensemble de la planète, c'est-à-dire à quel point l'humanité tout entière va continuer d'émettre massivement ou moins massivement, voire réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notamment par la combustion des ressources fossiles, charbon, gaz dit naturel et pétrole. Pour permettre de donner une information la plus claire possible pour permettre à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, de collectivités en particulier, mais aussi économiques, entreprises et autres, de savoir à quoi s'attendre, eh bien, a été élaboré ces dernières années ce qu'on appelle la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire une trajectoire qui est centrée sur une perspective de respect par les États de leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris en particulier, en termes d'émissions telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui nous amènerait à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés par rapport à l'échelle pré-industrielle au niveau mondial et qui se traduit par un réchauffement de l'ordre 4 degrés pour la France hexagonale et la Corse par rapport au pré-industriel. Et donc c'est selon cette trajectoire de référence, qui est une référence mais qui n'est pas du tout le seul futur possible, mais qui est une référence pour savoir à quoi s'attendre, que l'on envisage effectivement que des étés tels que celui qu'on a connu en 2003, avec ces conditions de vagues de chaleur extrêmes, se produisent de plus en plus souvent au fur et à mesure que le réchauffement se poursuivra. Mais cette trajectoire de référence, elle est vraiment là pour se préparer à une certaine évolution, mais si les émissions de gaz à effet de serre chutent plus rapidement que les engagements actuels sont pris, eh bien, le réchauffement pourra être moindre que cette cible ou cette tendance à 3 degrés. Si, à l'inverse, les émissions se poursuivent massivement au-delà de ce que les engagements des États sont à date, eh bien, le réchauffement pourra être plus fort. Voilà. Mais ça donne une trajectoire qui permet de se préparer collectivement de façon harmonisée.
Audrey Garic, sur cette question-là, je rappelais que le 22 mars 2025, vous avez écrit un article en vous intéressant à un rapport de Météo France, d'ailleurs publié le 20 mars, sur une France à 4 degrés, avec justement beaucoup d'éléments très très précis. Et puis vous qui suivez aussi les différents grands sommets, les COP, comment voyez-vous cet horizon, puisque Samuel Morin parlait d'une peut-être possibilité d'inverser la mécanique. On en est un peu loin, hein, au vu des résultats des tractations internationales.
Mais déjà, la France à 4 degrés, à plus 4 degrés en 2100, moi je trouve ça vertigineux quand je lis effectivement les rapports de Météo France avec tous les détails. Cette photographie-là me fait très très peur parce que c'est ce que disait Samuel Morin, beaucoup plus de canicules, c'est 10 fois plus de jours de vagues de chaleur d'ici à la fin du siècle par rapport à 1976. 2000, la référence d'avant, mais aussi c'est par exemple des températures de 50 degrés, ce serait probable à la fin du siècle. C'est des vagues de chaleur qui pourraient commencer dès la mi-mai jusqu'à septembre et durer plusieurs mois, par exemple 2 mois en continu. Des nuits tropicales aussi, ce qu'on appelle nuits tropicales, c'est les nuits qui sont à plus de 20 degrés, qui empêchent donc les organismes de se reposer et qui sont néfastes pour la santé. Là, on pourrait en avoir 100 à 120 sur les régions méditerranéennes à la fin du siècle toujours. Et après, c'est pas que la chaleur, c'est aussi une France qui est plus sèche, jusqu'à 4-5 mois de sol sec dans la moitié nord en 2100 et plus de 7 mois dans les régions méditerranéennes ou en Occitanie. Ce qui n'empêche pas, en fait, là aussi les précipitations intenses, puisque tout ça est aussi lié au réchauffement climatique. Ces précipitations peuvent augmenter sur l'ensemble du pays intense, mais avec des hausses plus fortes sur la moitié nord. Et là, il y a pas mal d'incertitudes malgré tout. Et sécheresse plus canicule, ça fait un cocktail très important pour les incendies. Et donc là, pareil, c'est des incendies qui vont toucher davantage de régions françaises, qui vont commencer plus tôt dans la saison, un peu plus tard aussi, être plus intenses.
Et donc générer là aussi des émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, voilà, donc on est dans un cercle vicieux. Donc par rapport à ce que disait Samuel, effectivement, c'est si les engagements actuels des États qui sont insuffisants sont tenus, on se dirige vers cette France à 4 degrés. Donc en fait, c'est pas un scénario pessimiste, c'est un scénario réaliste. Et effectivement, ce qu'on a vu lors des dernières COP n'incite pas à davantage d'optimisme, puisqu'on a du mal à prendre des mesures pour progresser, notamment sortir des énergies fossiles qui sont la première cause du réchauffement climatique. Et donc on est toujours sur une trajectoire de gaz à effet de serre qui est sur cette trajectoire-là de plus 3 degrés au niveau mondial, plus 4 degrés au niveau français. Et avec tous les reculs environnementaux qu'on voit avec l'arrivée depuis la présidence de Donald Trump aux États-Unis, les reculs en Europe et aussi en France, en fait, où on en a quand même pas mal sur le plan environnemental. Oui, moi, je suis assez pessimiste en ce moment.
Et Copernicus est en passe d'annoncer que 2025 aura été l'année la plus chaude après 2023 et 2024, si je ne me trompe pas. Annonce pour demain. Mercredi 21. Des impacts économiques, on imagine, bien sûr, puisque tout cela aura des conséquences sur les cultures. Moins de vagues de froid, c'est aussi plus de parasites. Et plus de vagues de chaleur, c'est aussi des conditions difficiles pour notamment l'agriculture ou d'autres terrains d'exploitation. Sur la santé aussi, des conséquences, sur le social, sur le culturel, des surcoûts en milliards. Hein. Seule solution, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Samuel Morin, ce tableau un petit peu apocalyptique, mais en même temps, vous, vous y travaillez aussi, hein, et vous voyez les courbes. De quelle façon est-ce que les analyses, justement, effectuées, les bilans, sont aussi des aides à la décision publique, au choix politique ?
Oui, c'est un sujet important dans la mesure où ces perspectives sont effectivement lourdes de conséquences pour un certain nombre de secteurs, pour un certain nombre de territoires. Et c'est déjà la responsabilité de Météo France que de mettre à disposition des informations sur l'évolution de l'aléa météorologique dans un climat qui change, c'est-à-dire l'évolution des températures, des précipitations, ce qui est déjà en ligne sur un certain nombre de portails tels que le portail Dries, ou bien via des outils qui permettent à chacune, à chacun de consulter pour une commune en particulier. C'est un outil qui s'appelle Climadiac Commune, qui permet de savoir pour chaque commune quelle est l'évolution, selon cette trajectoire de référence, d'un certain nombre d'impacts, de risques pour ces localités. Donc ça, c'est une première analyse, c'est une première mise à disposition d'informations qui peut permettre de prendre la mesure du changement en cours et à venir. Et puis on va plus loin encore, ça nous oblige, et c'est extrêmement riche, de travailler de façon beaucoup plus interdisciplinaire, en fait, avec des partenaires académiques d'autres laboratoires, d'autres communautés, et puis avec des acteurs directement concernés par ces risques, que ce soit des porteurs d'enjeux publics ou privés, et notamment dans le cadre d'un programme de recherche national que je co-dirige, qui s'appelle TRAX, dans lequel on travaille à l'élaboration de ce qu'on appelle des services climatiques, c'est-à-dire des outils d'aide à la décision, dans lequel on vient mixer l'information sur l'évolution du climat avec des vulnérabilités, des facteurs qui caractérisent les conséquences pour différents secteurs, que ce soit le secteur des transports, le secteur agricole, pour rendre intelligibles finalement ces changements, pour aider à la prise de décision pour l'adaptation. Un autre exemple, j'ai eu l'occasion de travailler quelques années sur la question des conséquences sur l'enneigement des domaines skiables, et on a pu mettre au point un outil qui aide à la décision pour l'adaptation de ce secteur touristique dans un contexte de climat qui change, en rendant intelligible autant que possible les conséquences concrètes de ce changement pour aider à stimuler et à prendre les décisions sur les orientations stratégiques de ces territoires et de ces secteurs.
Et on imagine qu'il y a des points géographiques plus sensibles aujourd'hui en France, France donc Hexagone et Outre-mer, et que vous expertisez aussi avec encore plus de vigilance. Avant d'en parler, je vous propose justement un petit retour en arrière là aussi, mais ce n'est pas si vieux, c'était en octobre 2020, reportage diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, et nous sommes dans les vallées de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et du Haut-Var.
Ce 2 octobre 2020, c'est pas moins de 650 millions de tonnes d'eau qui sont tombées sur le Mercantour. 500 litres d'eau par mètre carré, c'est du jamais vu. Cet épisode méditerranéen sans précédent détruit une grande partie de la Roya et de la Vésubie. Absolument rien ne résiste à la violence des flots.
Il y a tout qui s'en va, toutes les voitures, tous les camions et les gens qui sont coincés dans les maisons.
Le lendemain, vu du ciel redevenu calme, c'est un vrai cauchemar pour les habitants. Les routes sont coupées, les maisons détruites. Roquebilière, Breil ou encore Saint-Martin-Vésubie vivent les pires heures de leur existence. Bilan, 10 morts et 8 disparus, dont ces deux pompiers. À Saint-Martin, l'eau a même emporté une partie du cimetière. Certains caveaux n'ont jamais été retrouvés. Les secours déployés avec le renfort de l'armée déclenchent alors un immense élan de solidarité.
On a perdu la maison, elle a été rasée, on s'est retrouvé en danger avec deux de mes enfants et on doit notre salut aux pompiers et à un voisin.
Le malheur a dépassé les frontières de la vallée et c'est toute une région qui se mobilise pour venir en aide aux sinistrés.
On ne peut pas rester solide longtemps, quoi. Faut nous aider maintenant, faut pas nous oublier.
Au total, 13 000 personnes sinistrées et un coût des dégâts estimé aux milliards d'euros. 70 communes en tout seront classées en état de catastrophe naturelle.
Étudier et caractériser les effets du réchauffement climatique, c'est intégrer forcément des retours d'expérience, hein, et puis des facteurs aussi amplificateurs. On se pose bien sûr la question de savoir est-ce qu'on est suffisamment préparé à ce contexte météorologique et climatique qui évolue. Adaptation, anticipation. Audrey Garic.
D'après le Haut Conseil pour le climat, qui sont les experts en France qui suivent les politiques publiques climatiques, la réponse est non. Ni sur l'atténuation, ni sur l'adaptation, donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France les réduit, mais va pas assez vite. Donc on fait quand même partie des élèves pas trop mauvais au niveau mondial. Les émissions, par exemple, sur l'année 2025, d'après une projection qui vient juste d'être publiée par l'organisme qui s'appelle le CITEPA, sont que les émissions baisseraient de 1,6% sur l'année 2025 par rapport à 2024. Donc, déjà, c'est à la baisse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait multiplier par 3 le rythme pour tenir les objectifs climatiques en 2030. Et le problème, c'est que beaucoup des mesures qui sont prises dans les différents secteurs émetteurs sont quand même d'abord... beaucoup des baisses sont beaucoup conjoncturelles, plus que structurelles. Donc, on voit qu'il peut y avoir des baisses dans les secteurs des transports ou de l'agriculture ou des bâtiments, etc., mais qui peuvent être dus à une baisse de l'activité industrielle, à une réduction du cheptel bovin, à la météo, et moins aux mesures mises en place par le gouvernement. Donc il faut davantage de mesures dans tous ces secteurs pour électrifier les transports, pour avoir une agriculture plus durable, pour rénover massivement les logements. Et là, on a vu des reculs aussi, puisque depuis le 1er janvier, faute de budget, on n'a plus MaPrimeRénov', qui était le guichet qui permettait de rénover.
Exactement.
Donc sur la réduction des émissions, il y a beaucoup d'efforts à faire, et sur l'adaptation aussi, le Conseil pour le climat a conclu aussi l'an dernier que la France n'est pas suffisamment préparée, qu'on a des mesures qui sont trop fragmentaires, qui ne sont pas assez globales et structurées, systématisées. On manque d'argent aussi pour l'adaptation au changement climatique. Et même si de plus en plus les collectivités, le gouvernement s'est saisi de cet enjeu, il y a un progrès. Là aussi, c'est encore insuffisant pour être dans tous les secteurs d'activité, toucher tous les travailleurs par exemple, toucher les personnes les plus vulnérables et accélérer aussi sur ce domaine.
Sylvain Mandon, il nous reste 2 minutes, mais justement sur ces questions-là, des transformations ont été observées, hein, aménagement de littoraux après la tempête Xynthia par exemple, et puis d'autres, obligation de construire des maisons à étage avec une ouverture sur le toit, etc., etc. On voit bien qu'il faut que de toute façon, avec les prévisions et puis ces bilans que vous menez, que vous tirez, que les villes aussi s'emparent de ces questions-là, îlots de fraîcheur, isolation des bâtiments, votre regard sur la situation et l'adaptation, l'anticipation. Est-ce qu'on devrait peut-être accélérer ?
Alors oui, effectivement, c'est très important de s'adapter. Mais avant de répondre plus précisément à cette question, je veux quand même rappeler qu'on ne peut pas s'adapter à tout. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'augmentation des émissions.
Complètement, c'est la priorité.
Et qu'il faut surtout réduire ses émissions et viser la neutralité carbone. Parce qu'on ne peut pas s'adapter à l'infini. Ça, c'est vraiment très important. Mais il faut quand même s'adapter parce que le climat a déjà changé. Et aujourd'hui, on a notamment atteint en 2022 des limites capacitaires sur tout un tas de sujets. Que ce soit la lutte contre l'incendie ou l'approvisionnement d'eau potable. On a vu des villages entiers qui ont été approvisionnés par camion pendant presque tout un été. Donc c'est vraiment des limites. Et comme Jean Jouzel l'a rappelé à votre antenne il y a quelques temps, c'est une question d'habitabilité en fait. C'est une question d'habitabilité de notre territoire. Et puis dans le temps, puisqu'il nous reste 1 minute, en 8 minutes, je voudrais souligner une action vraiment
une
pionnière.
1 minute 30.
Et on verra si vous m'accordez les 30 secondes de plus. Mais une action pionnière qui a été engagée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, donc du ministère de l'Intérieur, et qui s'est tournée vers Météo France pour se préparer, qui a demandé à Météo France comment je peux préparer mes activités à faire face au climat d'aujourd'hui qui a déjà changé et à ce qui va arriver dans les prochaines années. Ce qui a abouti après 15-18 mois de travail à un plan d'adaptation de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise pour se préparer à mieux faire face. Et notamment dans les mesures concrètes, il y a l'installation de prépositionnement de zones de ravitaillement pour les canadaires très au-dessus de la Loire, très au nord de la Loire. Donc ce qu'ils appellent des pélicandromes. Et donc c'est vraiment des actions pionnières qui sont très importantes.
Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra renouveler les invitations pour aller encore plus loin sur ce sujet. Merci Sylvain Mandon, merci Samuel Morin, merci Audrey Garic. Nous pouvons conseiller la lecture de vos livres sur le sujet aussi et la météo du climat via le site de l'émission ou le site lemonde.fr. Informations, bibliographies, liens sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr. Rubrique de cause à effet où vous attendent d'autres podcasts liés au sujet. Très belle journée à tous.